France Info.
France Info.
Une sonde spatiale à rendez-vous aujourd'hui avec une boule de glace et ça met tous les astrophysiciens en émoi. Bonjour Philippe Lamy.
Et bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS. Pourquoi s'intéresse-t-on aux comètes ? Quel est l'intérêt scientifique ?
Les comètes constituent des petits corps qui sont parmi les plus anciens témoins de la formation du système solaire, ceux qui ont été le moins modifiés, moins que les astéroïdes par exemple. Et c'est pour cela qu'il y a un tel intérêt à les analyser et donc les étudier de près pour comprendre les phénomènes, les processus qui ont déclenché la formation du système solaire.
Donc on peut dire que c'est une sorte d'archéologie spatiale, quoi. On va essayer de comprendre.
Spatiale, oui. On peut aussi utiliser le terme de relique en parlant de ces petits corps.
Oui, ces petits corps, donc une comète. Une comète, c'est composé de glace, hein, c'est ça?
Alors, en partie de glace. Les idées ont évolué. On pensait effectivement le concept qui a longtemps prévalu, c'est celui de l'astrophysicien américain Whipple, considéré comme le papa de la cométologie moderne. Mm-hmm. Donc c'est lui qui a proposé ce modèle. Alors c'est Dirty Ice Snowball, hein, boule de neige sale. On pense maintenant qu'il y a quand même plus de matière solide, donc de silicate, que de glace. Alors bon, les proportions après sont sujettes à débat. On parle plutôt maintenant d'une boue congelée, si vous voulez.
Et en quoi le rendez-vous d'aujourd'hui, donc entre la sonde Rosetta, cette sonde spatiale, et la comète Churyumov-Gerasimenko, est extraordinaire? Pourquoi tout le monde cite ce rendez-vous comme étant exceptionnel?
Peut-être parce que l'ESA a bien monté son opération de communication, si je puis dire. Mais au-delà, c'est quand même la première mission qui a effectivement rendez-vous, où il y a la sonde à un rendez-vous avec la comète.
On n'avait jamais étudié de la sorte une comète auparavant.
Alors si, en particulier l'Europe s'est illustrée par donc la mission Giotto, la première mission qui a survolé un noyau cométaire, donc celui de la comète de Halley en 86. Mm-hmm. Depuis, il y a eu plusieurs missions de la NASA, donc qui ont survolé en particulier les comètes Tempel 1 et Hartley 2, mais c'était toujours des missions de survol, c'est-à-dire la sonde passe rapidement à côté de la comète, ne s'arrête pas, si on peut dire, il n'y avait pas de mise en orbite.
Donc, alors que là, elle veut se mettre en orbite, voilà.
Quelques jours au maximum, et puis c'est terminé, et en partie, on ne voit qu'une partie du noyau cométaire, parce qu'on ne passe que d'un seul côté. Or là, vous voyez, donc, il y a un rendez-vous, après il va y avoir une mise en orbite, un accompagnement du noyau cométaire pendant un an et demi, donc on change complètement de dimension dans l'étude des comètes.
Donc la sonde va suivre la comète pendant un an et demi, va prendre des photos, de nous fournir des images, en apprendre plus sur...
Tout à fait, vous aurez pendant un an et demi, vous avez déjà presque depuis le mois de mars, hein, donc plusieurs mois maintenant, des images de plus en plus spectaculaires, hein, les dernières sont absolument extraordinaires.
Et si tout se passe bien, il y aura une étape encore plus extraordinaire, c'est que cette sonde va, expulser une sorte de petit robot laboratoire sur la comète.
Tout à fait, donc le module Philae, qui va être effectivement mise en position au point de vue de la trajectoire par la sonde principale, va s'en séparer, c'est simplement le système de ressort, si, pour parler simplement, et puis va poursuivre sa trajectoire qui doit l'amener donc gentiment à se poser, si tout se passe bien, avec une vitesse de l'ordre de mètres par seconde à peu près.
Et ça, ce sera au mois de novembre. La sonde est en train de se rapprocher petit à petit. Il faut qu'elle se rapproche quoi, 2 kilomètres pour pouvoir le lâcher, c'est ça?
Alors, ça dépend. Je crois que là, il y a encore des études à faire. Tout dépend de la masse. Il va d'abord falloir déterminer la masse du noyau qui n'est pas connue, donc le champ de gravité, donc pouvoir calculer des trajectoires possibles. Donc là, il y a encore un très gros travail avant de
c'est pour éviter que le robot s'écrase, quoi, c'est
ça? Voilà, exactement, qu'il se pose dans de bonnes conditions. Et en plus, il y a le choix du terrain d'atterrissage, si on peut dire, qui doit être aussi peu chaotique que possible, d'ailleurs assez plat. Il nous faut à peu près l'équivalent de deux terrains de football.
Et il a des sortes de petits crochets, c'est ça, pour s'accrocher.
Non, alors là, bon, il y a un autre problème qui se pose, c'est lorsque la sonde arrive à la surface, la gravité est tellement faible qu'elle peut rebondir, voire même basculer. Donc la première chose, c'est qu'il y a une rétrofusée très petite, donc au sommet de la sonde, qui va s'allumer immédiatement dès qu'il y aura un contact. Dès que l'un des pieds entre en contact avec la surface, déclenche l'allumage de cette petite rétrofusée qui va plaquer le module au sol pour être sûr qu'il ne rebondit pas, et ensuite vers des dispositifs d'ancrage, de sortes de grosses vis, si vous voulez, qui vont se mettre en route.
Et
après, elle va commencer à travailler.
Alors, il va faire quoi, ce petit robot laboratoire? Il creuse?
C'est un véritable laboratoire. Il y a une douzaine d'instruments qui vont faire, depuis de l'imagerie, de la spectroscopie, de l'analyse du sol. Il y a un système de forage qui va pénétrer le noyau, alors tout dépend de la dureté, disons 30-50 cm, prélever des échantillons qui vont être analysés à bord par différentes techniques, spectroscopie de masse, de façon à donc déterminer les compositions, les propriétés physiques, propriétés chimiques, propriétés électriques, etc. etc.
Mais comment on communique avec cette sonde? Ça paraît tellement inconcevable. Elle est quoi? Elle est à 400 millions de kilomètres de nous. Comment on fait?
Là, écoutez, c'est pas un extraordinaire. Vous savez, des sondes américaines.
Pour vous, mais pour nous, hein, pour les gens lambda.
Oui, il y a quand même des sondes américaines qui sont au-delà, à Saturne. Il y en a une qui maintenant va vers Pluton, qui communique sans problème. Alors, il faut bien sûr une antenne de bonne taille, déjà. Vous avez probablement vu que sur la sonde de Rosetta, l'antenne fait entre plus de 2,50 m et 3 m de mémoire. Bon, déjà une antenne assez importante. Et puis, le système au sol, où là aussi, il faut utiliser des antennes, en particulier donc le Deep Space Network, qui est un ensemble de grandes antennes, hein, de 30-50 mètres de diamètre, je n'ai plus le chiffre en tête, implantées autour du monde par la NASA et qui servent justement pour ces missions très lointaines.
Et les messages mettent combien de temps à arriver?
Alors attendez, j'ai plus en tête là, vous posez une colle, je vais essayer de réfléchir pendant que vous me posez une autre question.
Moi j'ai lu plusieurs dizaines de minutes, quasiment
oui,
une heure, c'est ça?
C'est le bon ordre d'heure, tout à fait, bien sûr.
Ouais. Et ce programme, donc c'est un programme, on le disait en tout début, européen, ça veut dire que le vieux continent est encore une puissance spatiale aujourd'hui?
Alors, le vieux continent est effectivement très actif dans le milieu spatial, dans la conquête spatiale, pas autant que les scientifiques le souhaiteraient, mais nous arrivons à faire effectivement, c'était déjà le cas avec Giotto, donc c'est le cas aussi maintenant avec la commission Rosetta, à des grandes premières.
Et vous pensez qu'on va réussir, grâce à Rosetta, à percer le mystère de l'apparition de la vie sur Terre?
Je ne peux pas vous assurer que d'ici un an, une fois que toutes les analyses seront faites, nous aurons une réponse claire et définitive.
Mais c'est l'objectif ultime.
Nous allons contribuer, c'est sûr qu'il va y avoir, je pense, un pas en avant significatif. Mais comme toutes les missions spatiales, elles apportent leur brique à un édifice qui n'en finit pas de se construire.
Une mission qui a quand même déjà 20 ans qu'elle a été conçue, il y a 10 ans que...
C'est tout à fait, j'ai repensé ce matin, j'ai démarré mes propres travaux, j'ai participé de toutes les conférences, les premières conférences. La première mission, c'était en fait un retour d'échantillons cométaires. C'était probablement trop ambitieux. On est revenu donc à une mission plus simple, mais enfin qui reste quand même extraordinairement complexe. Oui, c'est 20 ans de travail. Et
Rosetta est partie il y a 10 ans à bord d'une fusée Ariane. 6 milliards de kilomètres, j'ai vu, elle a parcouru 6 milliards de kilomètres. Et elle approche de son but aujourd'hui. Merci beaucoup, voilà. Philippe Lamy, astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS. Merci d'avoir été l'invité de France Info.